midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez. Chaque midi, vous montrez que oui, la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. Gros plan aujourd'hui sur le pain. La baguette a beau être l'emblème de la France, vous allez voir que le secteur est en train de se réinventer. Il a transformé les objets de notre quotidien avec des formes amusantes, des couleurs qui claquent, pilonnent, mais de l'originalité dans nos vies depuis 1985. C'est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis vous marchez beaucoup et si vos pas se transformaient en dons, c'est la solution aujourd'hui et ça s'appelle Walk United. C'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, vous êtes peut-être en train de déjeuner et je suis certaine qu'il y a sur la table un morceau de pain ou une baguette. Venez nous dire si vous en consommez et si vos habitudes, Anissa, en la matière ont changé.
Bah oui, venez nous dire quel est votre pain préféré. Venez nous dire si vous le préférez simple, classique, aux graines, aromatisé. Venez nous dire surtout si vous vous intéressez au pain français. On en parle jusqu'à 14h avec les invités de Raphaël Duchemin et vous pouvez réagir. 39-21, c'est le standard d'Europe 1, Raphaël.
Oui, car le saviez-vous, il se vend chaque seconde en France 320 baguettes et nous en mangeons en moyenne 120 grammes par personne et par jour. Même si c'est vrai, c'est beaucoup moins qu'il y a 50 ou 60 ans, le pain reste un incontournable dans les familles françaises. Et vous allez voir que nos invités se battent pour défendre ce patrimoine français. Pour les accueillir à mes côtés, comme chaque jour, Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, Gilles Van Der Potten, directeur de la France des Solutions et de Reporter d'Espoir. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Je signale, parce que vous êtes venu avec, il est tout frais lui aussi,
oui.
20 initiatives. Initiatives qui font bouger la France, c'est comme ici finalement.
Tout à fait.
Exactement. Petit livre avec Jean-Louis Etienne et Reporter d'Espoir, portrait de citoyens qui bâtissent l'avenir. C'est ce qu'on fait ensemble tous les jours ici avec vous et avec notre équipe de coachs. Parmi les 32 000 boulangeries françaises, il y a des noms qui sortent du lot évidemment, dans nos régions forcément, mais aussi au niveau national. Bonjour Apollonia Poilane.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est votre grand-père qui a fondé en 1932, je crois.
En 1932, il s'installe au cœur de Saint-Germain-des-Prés.
Ouais, les boulangeries Poilane.
8 rue du Cherche-Midi et mon grand-père fonde Poilane. Et je suis la troisième génération de boulangère donc,
à reprendre
à la tête,
le voilà, flambeau.
Exactement.
Racontez-moi, comment lui vient cette idée? Au départ, il a envie de créer une miche qui soit différente de la baguette.
Exactement.
Mais qui puisse résister justement à l'humidité, résister...
Ouais, et puis un pain qui nourrit. Saint-Germain-des-Prés, à l'époque, c'est un quartier d'artisans, d'artistes. La baguette bat son plein dans la capitale. Et mon grand-père doit se distinguer. Alors, il commence à faire du pain qui est une grosse brassée de pain. Si vous tenez vos... Alors, pardon,
on l'a avec nous. Si vous nous suivez sur Europe 1, elle est avec nous, cette brassée de pain, comme vous dites.
C'est une brassée de pain. C'est un pain qui nourrit, c'est un pain qui se garde. On n'en perd pas une miette, de la croûte jusqu'à la dernière mie. Et c'était ce qui, à mon avis, a fait le succès à l'époque, les premiers succès de mon grand-père. Mon père a pris sa suite dans les années 70. Pareil, on est sur une période où les gens veulent du pain blanc en réaction encore au pain de la guerre. Et c'est vrai que ce soit mon grand-père ou mon père, ils ont tenu bon pour porter les couleurs de ces pains avec cette conviction que le pain est un aliment premier, ça ce sont les mots de mon père, et qu'il faut qu'il nourrisse.
Ce sont des mots qui vous tiennent à cœur parce que je regardais, vous avez écrit des tribunes sur le pain.
Oui.
Vous êtes engagé véritablement à la défense du pain parce que vous dites de tout temps, que ce soit en 1917 en Russie ou il y a quelques années encore en Tunisie, c'est le pain qu'on brandit quand on a faim.
Exactement, le pain c'est l'alimentation de base. Alors c'est une tranche de mon pain en levain, c'est un morceau de baguette, c'est un quignon ou c'est la partie blanche, c'est un bol de riz au Japon, ça va être une galette en Éthiopie. Le pain sous une forme ou sous une autre, quelle que soit la céréale, moi j'estime que mon métier c'est je prends des farines de céréales et je le transforme grâce à la magie de la fermentation en pain. On est sur une base de l'alimentation. S'il manque quoi que ce soit d'autre, le pain reste l'aliment de base.
Vous avez, au fil des années, ouvert de nombreuses boutiques. Il y en a même une à Londres. Je crois que c'est votre grand-père qui l'a ouvert il y a 18 ans.
Alors, c'est mon papa
Votre
père. Il a ouvert en juin 2000. Ma sœur et moi avions en mai allumé le four. Et un mois plus tard, parce qu'en fait, ça prend, on utilise des fours à bois. Et un
four. Vous en avez beaucoup, 24, je crois.
Alors, on en a 24 à la manufacture. C'est comme 24 petites boulangeries, les unes à côté des autres. Et chaque boulanger travaille indépendamment, comme 24 artisans les uns à côté des autres, pour fabriquer le pain qu'on livre dans Paris et sa région. Dans nos boutiques, on a aussi nos fours.
3 à 5 000, c'est ça, miche de pain.
Exactement.
Par jour.
C'est ce, ben, parce qu'il y a 24 fours, on peut fabriquer des quantités plus importantes. On fait des fournées de 100 miches de pain et on livre nos clients, qu'ils soient revendeurs ou restaurateurs.
Elisabeth, il se porte comment le marché du pain aujourd'hui en France ?
Mais alors, il y a eu 50 années de baisse constante hein, de la consommation de pain, une consommation qui a été divisée par 3 en 50 ans. Et aujourd'hui, bonne nouvelle, ça ne baisse plus. Hein. Nous sommes à 120 grammes en moyenne par jour. C'est le cas depuis 2-3 ans, ça ne baisse plus. Et ce qui fait que ça ne baisse plus, c'est qu'il y a eu un virage qui a été pris, notamment dans les grandes surfaces. On a avant tout misé sur la qualité premium hein, du pain. Tout le monde n'a pas de boulangerie poêlane ou d'artisan, hein, tout simplement près de la maison. Beaucoup de personnes vont dans les grandes surfaces, dans la grande distribution, acheter du pain. Ouais. Pour vous donner une idée, par exemple, Monoprix a remplacé sa baguette blanche par une recette 100% bio. Donc, mise en avant des gammes bio ou de pain issu de farine locale, dites de bonne qualité.
Monoprix, où vous livrez aussi du pain
poilanin
à Polonia.
Exactement. Mon père a vraiment... En fait, nous, une des spécificités de nos métiers, c'est qu'on est dans un métier où on apporte cette base de l'alimentation. Donc, on est dans ce service où on doit aller voir le client là où il est. Et quand vous rentrez tard de votre bureau et que votre Monoprix est ouvert à 22h30, et ben c'est génial de pouvoir acheter des différents pains, que ce soit les pains que eux font ou les pains que nous leur proposons.
Gilles, notre coach.
Oui, bah le pain poilane, c'est devenu une institution. On le trouve partout. Moi, je l'ai vu dans toutes les villes de France, quasiment, dans les Monoprix ou d'autres magasins. Comment on reste artisan avec une telle production? Vous dites 3 à 5 000 pains par jour. Comment vous arrivez à
garder
rester...
la qualité?
Oui, la qualité.
Ça, c'est tout simplement l'intelligence de mes parents, ma mère en tant qu'architecte, mon père en tant que boulanger, pour allier leur savoir-faire. Quand ils ont créé, il y a 35 ans, la manufacture, ils avaient deux options. Une demande croissante, des clients en demande de leur pain, et un
carrefour. Manufacture, je précise, qui est à Bièvre.
À Bièvre,
hein.
Exactement. Et leur choix, ça a été, il y avait deux voies possibles, je caricature. Il y avait la voie d'une chaîne de production et il y avait la voie de la manufacture. Et ils ont choisi le mot parce que ça reflète le fait que chaque boulanger travaille indépendamment de son voisin sur un des 24 fournils. Donc c'est vraiment, figurez-vous, un lieu en forme de cercle, donc une même forme que la miche, mais une forme aussi que l'on trouve dans la nature et où chaque boulanger, de A à Z, travaille sur sa fournée. Donc on fait un travail qui est 100% purement artisanal, mais à grande échelle, simplement par la compilation, la multiplication des fournils.
D'accord. Avec toujours les mêmes recettes, mais
avec
qui
la
sont
même recette, avec...
peut-être différentes quand même, avec la
alors,
pâte,
par exemple,
la main
ben,
qui
par
travaille,
exemple,
n'est pas la même.
Et absolument, mais c'est aussi la transmission de ces savoir-faire de génération de boulanger en génération de boulanger. On a des boulangers qui travaillent avec nous depuis... plus de 35 ans, donc ils sont un peu plus âgés que moi. C'est un peu embarrassant de le dire comme ça, mais c'est génial en même temps parce que c'est cette passion et ces générations de boulangers qui vont partager un savoir-faire et qui nous permettent aussi d'innover. On travaille des pains de blé, on travaille des pains de seigle et on travaille aussi des pains de maïs. On fait un pain 100% farine de maïs, sans sucre, sans blanc d'œuf, sans gomme. Et c'est ce savoir-faire autour de la céréale et de la fermentation qui a alimenté ce travail-là.
Je me tourne vers vous, Elisabeth. Justement, les ingrédients santé, ils boostent de plus en plus aussi les pains et la vente des pains.
Oui, tout à fait. Les innovations ont fait un bond ces dernières années en matière de pain. Alors, par exemple, chez Philibert Savour, on a mis au point un levain liquide aux germes de blé qui permet de réduire d'un tiers la teneur en sel. Vous avez aussi l'Allemand qui produit de la levure productrice de vitamine D, ou encore chez Eurogerm, alors eux, ils font de la mie de pain hyper protéinée. Donc, le pain est un excellent aliment. Ici, on met en plus des super fruits ou du levain, du super levain. Alors là, c'est encore mieux.
On va continuer à regarder de près le pain dans tous ses états aujourd'hui sur Europe 1.
Il est très urbain.
Avec de nouveaux boulangers qui arrivent aussi sur le marché, ils vont du champ à l'assiette. C'est le cas d'Émile et Jules. A tout de suite sur Europe 1. Jusqu'à 14h sur Europe 1, la France bouge avec aujourd'hui ceux qui font bouger le pain français. Le pain dans tous ses états, nous le découvrons grâce à vos invités, Raphaël Duchemin. Venez nous dire, tiens, comment vous aimez le pain. Il y a déjà des messages hein, et vous êtes des grands amateurs de pain. Et ça sent très bon en studio. Vous pouvez nous suivre en vidéo sur Europe1.fr pour voir ce très beau pain. Et on attend vos réactions au 39-21, c'est le standard. Et puis sur Europe1.fr avec vos messages Twitter.
Boulanger, c'est vrai que c'est un métier, mais en amont, pour fabriquer du pain, il y a l'agriculteur, celui qui cultive le blé, il y a la meunerie aussi. Pour sauver leur ferme, certains ont fait un choix, élargir justement le champ des possibles. Bonjour Émile Vénocourt. Merci d'être avec nous. Je crois qu'on a un micro qui est fermé, je le dis à Thomas Caillé qui est de l'autre côté. Voilà, ça va mieux. Vous êtes le cofondateur d'Émile et Jules. C'est une histoire de famille, Émile et Jules.
À la base, une histoire de famille. On a une ferme familiale dans les Yvelines depuis à peu près 100 ans. C'est l'arrière-grand-père de mon père qui l'avait acheté. Et c'est une ferme très compliquée. C'est des anciennes forêts défrichées. C'est des terres très acides.
Difficile
à cultiver, des rendements faibles, mais des bonnes qualités de blé.
Et un vrai attachement à
et
ce lieu.
Et un vrai attachement, c'est de là par le projet, et c'est pour ça qu'on s'est jetés dedans tous les deux avec mon frère. Mais c'était une ferme, mon père savait très bien que les aides de la PAC allaient s'arrêter, que la ferme, on tenait la tête hors de l'eau grâce à ses aides, et qu'il fallait trouver un moyen de se diversifier si on voulait qu'elle reste dans la famille.
Alors du coup, le moyen, vous l'avez trouvé,
ça
fait 6 ans. Hein,
ça va faire une petite dizaine d'années qu'on travaille sur ce projet.
Mais vous avez mûri le projet pendant 6 ans.
On commercialise depuis 6 ans, mais on travaille sur ce projet depuis une petite dizaine d'années parce qu'il fallait que mon père rentre dans la meunerie, moi dans la fabrication de pain. Donc ils font rentrer dans des nouveaux métiers, donc il fallait se former, apprendre.
Mais vous avez appris à devenir boulanger.
Exactement.
Voilà. Ça ne s'improvise pas.
Ça ne s'improvise pas du
tout.
Ça
a été long. Comment est-ce que vous avez fait pour vous dire, bon bah très bien, j'ai le produit originel,
ouais.
Et je vais le transformer. Je vais être à toutes les étapes.
Ça a pris beaucoup de temps. On apprend encore tous les jours. C'est vraiment un métier d'expérience, que ce soit pour mon père ou pour moi. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on travaille vraiment tous les deux, parce qu'en fait, on fait des assemblages de céréales. On cultive plusieurs variétés de blé et on les assemble entre elles. On les fait analyser chaque variété après la moisson. Ça nous analyse des paramètres boulangers qui sont la tenacité, la force, l'extensibilité, et on fait notre mélange ensuite comme un vigneron avec ses cépages pour avoir le mélange de blé le plus panifiable possible.
Donc votre spécialité, elle est là, elle est avec
moi,
nous.
C'est, hein,
c'est l'oreiller.
Moi, c'est l'oreiller. Et oui, c'est l'oreiller.
Alors, c'est celui-ci.
L'oreiller, c'est un pain qu'on. Non, c'est celui
c'est
du dessous.
C'est celui qui est dessous.
Au-dessus, vous avez un pain d'un kilo qui a
ah oui,
été façonné.
Oui, effectivement, il est lourd. Hein.
Et l'oreiller est un pain qui n'est pas façonné. Voilà, c'est exactement la même pâte, mais on se rend compte que la forme du pain, même en ayant la même pâte, change la texture et le goût du pain.
Parce qu'elle peut être plus aérée.
Oui, ça change. Ça n'a pas été fabriqué pareil. Alors qu'à la base, on a la même pâte à la sortie du pétrin. J'ai qu'une pâte, j'ai qu'une recette. Moi, je voulais avoir qu'une recette et la maîtriser. Et ensuite, je la fais sous différentes formes et ça donne des goûts différents. J'intègre des graines, des figues, voilà.
Vous avez ouvert votre première boutique en 2014, c'est ça, dans le 17e. Aujourd'hui, vous en avez 3.
On en a 3.
Et comment est-ce que vous travaillez? Vous avez un retour justement de vos clients qui vous aident à changer?
Les tâches sont très, très bien séparées. Mon père s'occupe vraiment de la partie agricole et meunerie. Moi, je m'occupe de la fabrication de pain et j'ai mon frère Jules qui, lui, gère les boutiques à Paris. Et on a un petit réseau aussi de restaurants, de cantines, de traiteurs qu'on fournit un réseau de professionnels qu'on livre tous les jours.
Notre coach, Gilles Vanderpoten.
Oui, vous disiez avoir dû vous diversifier à cause de la perte des subventions. Est-ce que vous pensez que le pain n'est pas assez défendu? Il devrait l'être davantage, que ce soit au niveau français, européen? Ou bien c'est plus un sujet pour vous, parce que vous êtes diversifié, ça fonctionne?
On s'est diversifié, ça fonctionne, mais c'est toujours un sujet très important et il faut continuer. Il y a de la place pour tout type de pain et pour tout type de fabrication et il faut continuer dans ce sens-là.
Le pain peut être un enjeu pour les échéances européennes à venir.
Bien sûr.
Peut-être.
Bien sûr.
Peut-être un sujet à porter.
Oui. Et puis on se rend compte que de plus en plus les agriculteurs cherchent des moyens de se diversifier. Pardon. Il y en a qui font de la bière, il y en a qui font du pain, qui font de la farine. Je suis considéré comme un paysan boulanger. Vous avez avez quand même beaucoup...
C'est un mouvement hein, qui est en train d'émerger.
Beaucoup de paysans boulangers dans toute la France qui alimentent leur village. Voilà. Et de plus en plus, je me rends compte que les agriculteurs cherchent à se diversifier. On a énormément dans nos régions des agriculteurs qui se lancent dans les travaux publics, ils cherchent des moyens de se diversifier parce que la ferme ne suffit plus.
Elisabeth,
vous dites que vous avez eu une seule recette. Comment faites-vous pour faire évoluer le prix de votre pain ?
Pour faire le prix
oui, parce que vous vous êtes diversifié tout en gardant une seule recette. Alors le prix est-il le même ?
Le prix est le même. Le prix ne bouge pas trop. Je crois que je suis au prix du marché. C'est pas parce qu'on fait tout nous-mêmes qu'on a quand même énormément on n'a pas la force des gros moulins ou des grosses boulangeries. Donc il y a énormément de frais entre chaque étape. Tout est fait à la main.
Ils se ressemblent, vos pains. On sent effectivement la patte, la main du boulanger.
On travaille déjà le même type de farine.
Apollonia.
Qui sont des farines écrasées à la meule de pierre. Donc,
ça change tout, justement, la matière première.
Ça change tout, bien sûr. La farine, c'est un produit vivant. C'est pas le même entre le moment où il vient d'être récolté et quelques mois plus tard, quand elle aura eu. Passer quelques temps dans des silos et du coup en écrasant la farine à la meule de pierre, ça nous permet de garder les huiles naturelles, donc on n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à la farine et parce que c'est un produit vivant, il faut aussi savoir s'adapter. C'est pour ça que par exemple chez nous, ce qu'on s'attache dans la formation de nos boulangers, c'est de sensibiliser leurs cinq sens à l'environnement du jour, à la saison. Et leur métier, c'est de fabriquer la même qualité de pain en s'adaptant tous les jours à ces paramètres et d'avoir ce dialogue entre la matière première et les éléments extérieurs. Exactement.
Oui, ce sont des artisans, ce sont aussi des artistes en quelque sorte.
Et c'est très intéressant parce que vous dites que les farines changent, mais je vais même plus loin, les blés évoluent aussi une fois récoltés. Les blés dans nos stocks,
eux aussi, ouais, en fonction des saisons, ils gagnent,
ils perdent de la force et ils sont vivants.
Ouais. Et c'est ce que nous, on ressent quand on travaille cette matière première.
Mais on ne travaille pas les farines de la même façon en fonction des saisons. C'est bien ça qui est intéressant, c'est que c'est un métier, on fait la même chose tous les jours, mais
On a une matière vivante, donc il y a un dialogue.
Aucun boulanger pourra faire 365 jours sur 365 le même pain, ce n'est pas possible.
On reste ensemble, on continue à regarder le pain dans tous ses états aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1.
Avec cette question, que faire des invendus ? Eh bien, vous allez voir que des Français ont trouvé la solution avec une machine à broyer. On la découvre ensemble dans un instant sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Aujourd'hui, nous découvrons le pain français. Il est magnifique, il sent bon, il est là en studio. Vous pouvez nous suivre sur Europe1.fr. Et vous pouvez nous dire, vous, quel est votre pain préféré ? Est-ce que vous mangez que du pain français ? Venez réagir sur Twitter, hashtag Europe 1 et au 3921, c'est le standard Raphaël.
Le pain, il faut le manger frais, mais que font les boulangers quand ils ont leur stock sur les bras ? Eh bien, des Français ont inventé une machine. Bonjour Franck Ouellet.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur d'Explicite, alors ça s'écrit EXPLICEAT, comme manger, hein, comme le verbe manger en anglais. Vous avez eu envie de lutter en fait contre le gaspillage alimentaire, c'est ça qui vous motive au départ, parce que je crois que vous étiez très engagé au Resto du Cœur.
Exactement. En fait, le projet est parti d'un double constat. D'une part, il y a énormément d'invendus dans les boulangeries, que ce soit d'ailleurs dans les boulangeries ou chez chacun d'entre nous, il y a des pertes. À côté, on connaît tous le pain perdu et le pain constitue une matière première de qualité. Et du coup, l'idée, ça a été de dire, on ne va pas revaloriser tous les invendus de pain sous forme de pain perdu. On ferait
une overdose.
On va essayer de développer des nouvelles recettes originales à partir de pain. Et on s'est rendu compte que si on broyait le pain, tout simplement, on obtenait une poudre qui est valorisable dans une infinité de recettes finalement, au même titre que de la farine.
Alors, elle est là, cette poudre, hein, c'est vraiment de la mie de pain broyée. Vous avez dû inventer la machine, je suppose, pour broyer ce pain ?
Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion-là, qu'il fallait
inventer une machine ?
Oui, dans un premier temps, ça s'est passé dans ma cuisine avec mon blender.
Oui.
Quand j'ai commencé à aller voir des boulangers...
Ça commence souvent comme ça.
Oui, quand j'ai commencé à aller voir des boulangers avec des cookies réalisés à partir de ce pain broyé, ils m'ont dit que c'était une bonne idée. Mais qu'ils n'étaient pas capables, eux, de broyer des gros volumes de pain rapidement et qu'ils n'avaient pas le temps. Et du coup, le constat est venu comme ça et je suis allé voir un industriel pour co-concevoir la machine avec lui, qui est optimisée pour gagner du temps au boulanger, tout simplement, parce que les boulangers aiment cette démarche, mais ils ont un temps limité.
Alors, vous pouvez broyer avec cette machine de différentes manières, c'est-à-dire qu'on peut faire des toutes petites mies de pain et des plus grosses. Il y a différents usages, il y a différents diamètres.
Exactement, on peut broyer tout type de pain, des pains blancs, des pains spéciaux, des pains aux noix, etc. On peut les broyer mous, donc typiquement le pain qui n'a pas été vendu hier soir peut être broyé le lendemain matin. Ça donnera un grain qui est plus épais et très moelleux, qui est très bien pour du muffin par exemple, ou d'autres recettes très moelleuses. Et on peut broyer du pain qui est soit grillé, soit durci naturellement, et on obtiendra une poudre très fine qui peut vraiment être utilisée au même titre que la farine. Et derrière, les boulangers peuvent jouer sur les pourcentages qu'ils vont réintégrer dans leur recette. S'ils mettent par exemple 10% de cette poudre dans leur recette habituelle, on ne verra pas de différence, sauf que derrière on aura du pain qui a une matière première noble revalorisée.
Et cette matière première, elle a des qualités qui sont intactes. On peut conserver cette matière longtemps.
Alors, on peut conserver cette matière première très longtemps et ça a été validé par une étude de maîtrise sanitaire qui a été cofinancée par l'ADEME. La poudre peut se conserver plusieurs mois. Et c'est tout l'intérêt du projet, c'est que contrairement au pain perdu, on est sur une matière première et des produits qui sont conservables. Voilà.
Donc ça, c'est quelque chose que vous avez inventé à Bordeaux. Oui. Vous êtes aujourd'hui d'ailleurs toujours sur Bordeaux et sur Paris un petit peu également. Vous avez combien de boulangeries qui ont accepté de jouer le jeu et de mettre leurs machines dans leur cuisine?
Alors à l'heure actuelle, il y a 35 boulangeries qui disposent du crumbler, qui est le nom de la machine. Maintenant que la preuve du concept est faite quelque part, où tous les boulangers sont vraiment satisfaits, parce que finalement, on est sur une démarche de bon sens. On a une matière première qualitative, on la revalorise dans des nouveaux produits. Et chaque boulanger peut innover, c'est-à-dire qu'il y a des boulangers qui vont faire plutôt des pâtisseries, d'autres qui vont refaire du pain en mettant 10 à 20% de cette poudre dans leur pain. Et on a des produits de qualité à la sortie, donc les boulangers forcément sont partants dans cette démarche.
Gilles ?
Oui, 35 boulangers, il y en a je crois 30 000 en France.
Oui.
Comment vous comptez les convaincre ?
Alors, c'est toute l'ampleur du travail qui arrive maintenant. Oui. Aujourd'hui, et grâce à vous notamment, y a un petit peu de visibilité et les boulangers commencent à se passer le mot.
Bah regardez, vous en avez deux déjà à côté de vous, donc ils vous écoutent avec beaucoup d'attention.
Vous leur montrez que c'est amorti, la machine est amortie.
Elle est amortie rapidement, en fait. Oui. En moins d'un an, elle est amortie, la machine. Et il y a des boulangers qui l'utilisent vraiment quotidiennement. Donc, d'une part, c'est des économies de farine, mais aussi et surtout, c'est des nouveaux produits qui sont qualitatifs et éco-responsables. Et ça ouvre des nouveaux marchés aux boulangers, notamment. On a développé des offres de traiteurs éco-responsables à partir de ces produits-là qui sont faits à partir de pain. Et donc, on a des boulangers qui font des tartelettes, des canapés, des pains surprises, etc. Et ça, c'est des nouveaux débouchés pour les boulangers, notamment de la part des collectivités ou d'entreprises qui organisent des buffets.
Ça vous parle, Apollonia Poilan, Émile Vénocourt, cette démarche justement de réutilisation du pain?
Oui, moi actuellement, je sais que mon frère travaille avec des associations qui passent le soir, mais les associations ne passent pas tous les soirs. Donc, pour ces soirs-là, ça peut être intéressant au lieu de jeter le pain.
Apollonia ?
Alors, chez Poilan, on fabrique le pain tout au long de la journée. Donc, en fait, nous, avec nos boutiques, il y a ce dialogue entre la boulangère qui est en boutique, les boulangers qui sont en fabrication, pour essayer d'arriver au minimum de reste à la fin de la journée en cuisant selon les ventes de la journée. On peut fabriquer du pain toutes les deux heures, donc ça c'est un peu notre balai, notre jeu dans la journée.
Ça veut dire que vous êtes vraiment...
On travaille en
proximité tendu. Avec ce que vous allez vendre.
Exactement, on travaille en flux tendu, ce qui nous permet en amont de travailler là-dessus. Et je travaille notamment depuis un an avec Refettorio, qui est cette initiative de Massimo Bottura, parce qu'on a au moins en commun cette idée, que cette notion de cuisine du pain, parce que c'est une belle matière, j'ai envie de la croquer à toutes les sauces en fait, tout simplement.
Elisabeth, on parlait tout à l'heure des associations qui récupèrent le pain. C'est vrai qu'il y en a, vous en avez trouvé pas mal.
Oui, il y en a pas mal. Il y a par exemple le Pain de l'Espoir. C'est une association qui existe depuis 1985, qui est née à Montpellier. Elle est entièrement animée par des bénévoles qui récupèrent du pain non consommé auprès des collectivités, auprès des écoles, des collèges, des boulangeries, et même chez les particuliers. Ou encore, on en parlait, l'association Pain Perdu. C'est une association engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire qui récupère du pain des boulangeries qui devait être jeté pour le transformer, là il l'assume complètement, en délicieux pain perdu.
On reste ensemble et on continue à parler du pain sur Europe 1.
On parle du pain français jusqu'à 14h sur Europe 1. La France bouge dans ce domaine et vous pouvez réagir à cette émission. N'hésitez pas, 39-21, c'est le standard. Et puis il y a bien sûr Twitter avec le hashtag Europe 1, Raphaël.
Oui, effectivement, et je vais attendre que les bouches se libèrent hein, pour pouvoir,
on déguste.
Pour pouvoir donner la parole à nos invités. Avec nous aujourd'hui, Apollonia Poilane, boulangère dirigeante des boulangeries Poilane, Émile Vinocourt, cofondateur d'Émile et Jules. Dans le 17e notamment, c'était la première boutique, vous êtes agriculteur boulanger. Et Franck Wallet, fondateur d'Explicite, les machines à broyer le pain pour le recycler, le fameux crumbler qu'on vient de découvrir ensemble sur Europe 1. Toujours avec moi, Elisabeth Assayag et notre coach aujourd'hui, Gilles Van Der Potten, directeur de Reporters des Sports et de la France des Solutions. On a pas mal de questions à vous poser. Il y a Marité, par exemple, qui nous a appelé au 39-21 et qui nous dit « J'ai une intolérance au gluten et de plus en plus de gens l'ont aussi. N'est-il pas possible de cultiver du blé qui revient comme avant avec moins de gluten ?» Je suppose que c'est pour vous, Émile.
Alors, moi, je lui conseille de manger des pains d'épeautre où il y a moins de gluten. Ou alors après, on peut aussi s'orienter vers des farines de maïs. Mais le blé sans gluten, non.
Non.
Mais l'épeautre est l'ancêtre du blé. Et je sais qu'il y a moins de gluten.
Apollonia ?
Il y a aussi le pain de seigle, qui est un pain où il y a moins de gluten que dans la farine de blé. Mais je pense que le choix de s'alimenter d'un pain chez un boulanger dont on connaît le travail autour avec ses meuniers, autour de la qualité de ces farines, de la qualité en amont de ce que les agriculteurs partenaires font avec les meuniers, c'est la base. C'est la masse.
Est-ce qu'on a des questions sur Twitter, Anissa ?
Alors, on a des réactions et des témoignages. Il y a Fred qui nous dit sur Twitter « Rien de mieux que de faire son pain soi-même. J'ai un petit faible pour le pain aux céréales avec une bonne farine bio et de bonnes graines. Le pain complet aux noix est aussi un régal. » Voilà, vous partagez vos goûts du pain français. Continuez, hein, Twitter, hashtag Europe 1. Et puis le 39-21, c'est le standard.
Justement, Pascal à Chambéry nous dit « Je suis née dans une boulangerie, j'ai été boulanger, je fais encore le pain chez moi et j'en mange tous les jours. C'est un aliment familial pour moi. » Et puis Nicole, dans le Tarn-et-Garonne, toujours au 39-21, qui nous dit « J'adore le pain. J'en consomme trois en particulier, le pain de campagne au levain, du pain aux céréales et du pain au curcuma. » C'est délicieux. On voit qu'il y a énormément de goût, d'appétence pour le pain, surtout chez nous en France. On est le pays du pain, hein. Vous serez d'accord avec moi, Émile, Apollonia, Franck, pour le dire.
Je pense que nos aventures le reflètent. On aime le pain, on vit pour le pain. C'est pas pour rien que de l'agriculture, on passe au pain. Tu aurais pu faire d'autres aventures avec ton frère et ton père. Et le crumbler existe parce que ça te mettait en colère de voir que le pain était gâché par les associations. Je pense que tous les trois, on montre à quel point ce pain a une place primordial dans nos vies.
Je voudrais que vous réagissiez aussi parce que il y a eu une enquête récente hein, de 60 millions de consommateurs, Elisabeth, sur le pain, où on nous a dit attention, on a testé et on a trouvé des produits, des matières dangereuses, nocives dans les pains qu'on a testés.
Oui, pas moins de 14 additifs dans une baguette blanche. C'est l'association 60 millions de consommateurs qui a fait donc état de la présence de ces substances nocives dans le pain et aussi dans le pain artisanal. L'utilisation d'additifs, apparemment, c'est courant, même dans les boulangeries où tout est fait sur place. Je rappelle que dans la loi, on autorise pour la fabrication du pain, du gluten, de la levure désactivée, de la farine, des fèves de soja, du malt de blé, ainsi qu'un auxiliaire technologique. Et certaines de ces substances seraient des perturbateurs endocriniens d'après 60 millions de consommateurs.
Ça vous a fait réagir, cette enquête de 60 millions à Polonia, Émile. Comment est-ce que vous l'avez perçue, reçue ? Qui a envie de répondre, Émile, peut-être ?
Non, mais pour prendre mon exemple à moi, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est bien pour ça qu'on cultive différentes variétés de blé et on les fait analyser. Et chaque variété a des qualités boulangères bien spécifiques et nous évite de rajouter tous ces produits dans les farines. Puis moi, je ne travaille pas des farines blanches du tout, je travaille des farines écrasées à la meule de pierre de type 80. Mais voilà, vraiment, chaque variété de blé a des qualités bien spécifiques et c'est ça qui est magique dans ce métier.
Et le consommateur aujourd'hui, il sait faire la différence à Polonia, justement.
Mais je pense qu'en fait, effectivement, Émile et moi travaillons sur... parce que c'est ton père, moi je travaille depuis plus de...
C'était votre bac à sable, hein, vous disiez, la boulangerie.
C'était la bac à sable, mais mon grand-père, mon père, travaillons avec des meuniers avec lesquels, aujourd'hui ça s'appelle un cahier des charges, mais à l'époque, on travaillait avec notre bon sens et on se disait, on va travailler justement sur ce qui va être notre blend de blé qui va nous permettre... de ne pas avoir recours à des auxiliaires, tout simplement parce qu'en fait, dès le départ, c'était même pas une option à l'époque, et enquiller là-dessus, mais on n'en a jamais eu besoin.
J'ai une dernière question, Franck, pour vous. Le crumbler, on pourra l'avoir un jour peut-être dans nos maisons aussi, en version mini.
Pourquoi pas,
c'est quelque chose auquel vous avez pensé déjà ?
Le crumbler version mini, ça s'appelle tout simplement le blender,
ouais.
Ou le mixer. C'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup de sensibilisation, d'ateliers de sensibilisation pour les particuliers, pour parvenir à réduire aussi le gaspillage de pain à la maison. Les recettes, on peut les faire, chacun d'entre nous peut les faire avec 3 croutons de pain qui nous restent toujours. On peut les faire à la maison. Maintenant, le crumbler, il est destiné aux boulangers qui ont besoin de gagner du temps sur le broyage de pain.
Sur des grosses quantités.
Sur des gros volumes.
Gilles, un dernier mot ?
Oui, par rapport, je pensais au pain bio ou à des techniques alternatives. Je crois que chez Poilane, justement, vous avez des initiatives proches de l'agroforesterie.
Oui, alors c'est vrai que nous, on travaille avec nos meuniers sur la qualité de nos farines et donc du coup des blés. Et par exemple, là, j'ai amené le pavé des moissons. Ça, c'est un pain où l'ensemble des blés qui font la farine de ce pain-là ont poussé dans le même champ. Et ça fait partie de nos champs d'expérimentation. Pour jouer sur les mots, mais pour aussi refléter une réalité que ça fait 80 ans qu'on travaille sur cette réflexion.
Et on peut éviter les intrants chimiques grâce à ces techniques-là, quelque part.
On peut justement les éviter.
Les éviter,
ouais.
Oui.
On a toutes les bonnes recettes aujourd'hui pour manger correctement du pain, continuer à le consommer puisque c'est l'aliment central ici en France. Merci à tous les trois d'être venus nous en parler.
Merci à vous.
Il est 13h38.
Europe 1.
Elle met de la gaieté à coups de couleur et de formes rigolotes dans les objets de notre quotidien. Pylone est l'entreprise qui va bien. On la découvre dans un instant sur Europe 1.
Europe 1.
La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1. Il est temps de découvrir maintenant l'entreprise qui va bien. Et après le pain, au reste dans la cuisine.
Oui. Cette entreprise, c'est vrai qu'on la connaît tous. Effectivement, dans la cuisine, pas seulement. Mais moi, par exemple, j'ai une râpe à fromage.
Moi, j'ai une boîte,
un dosette. Un petit chien qui tienne l'éponge ou le petit grattoir, vous savez, pour récurer évidemment les fonds de casserole. C'est Pylone. Pylone, c'est l'humour dans nos vies au quotidien. Bonjour Jacques Guimet.
Bonjour à vous tous.
Merci d'être
Bonjour
avec nous. C'est vous qui l'avez fondé, hein, Pylone, en 1985, c'est ça ?
On a démarré dans un pavillon de banlieue, dans une sous-sol. Oui, enfin, on peut dire dans une cuisine, parce qu'il fallait faire la tambouille avec tout un tas de matières. Au tout début, on a travaillé sur le caoutchouc.
Mais attendez, mais qu'est-ce qui vous a pris ? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? Vous en aviez marre du gris ?
Alors absolument, du gris, du noir, du métal, hein. On avait envie de couleurs, on avait envie de trouver des produits un peu plus sympas. Moi quand je vais dans une boutique, souvent je ressors sans rien en me disant non ça convient pas, je trouve pas, je suis un consommateur insatisfait. Alors on s'est dit on va essayer de donner un peu de couleur et de faire des produits amis, des produits colorés, des produits accessibles. Et donc Pylone, voilà, c'est né comme ça, dans un pavillon, sur le rêve d'avoir des produits qui font plaisir.
Et alors quel est le premier objet auquel vous vous êtes attaqué ?
Alors bizarrement, on a fait un truc qui aujourd'hui paraîtrait totalement anachronique, c'était des bijoux en caoutchouc. La marque, enfin le nom du produit s'appelait à l'époque Braguette Magique, ce qui n'avait d'ailleurs a priori rien à voir.
Fait,
c'était des formes animalières, il y avait des hérissons, des chats, des souris, enfin c'était complètement incroyable. Et d'ailleurs nos premiers clients étaient dans la mode en fait, hein, on commence. Alors nos clients ne voulaient pas de nos produits au début, Pylone. C'était un peu bizarre. Alors, on les mettait en dépôt vente. Et puis, en fait, on l'a mis, chez, par exemple, chez Axis ou chez Agnès B.
Et ça a décollé tout de suite.
Et tout de suite, ça a décollé. Et donc,
l'ADN de la marque... Parce que ça avait un côté loufoque et... drôle.
Totalement décalé, et on a continué après à faire des produits décalés. Bon, moi, par exemple, j'ai deux filles qui me demandaient des brosses à cheveux. J'allais au supermarché et je regardais
les brosses à cheveux sont noires,
elles sont grises, elles sont tristes, et on s'est dit, on va faire des brosses à cheveux colorées, on va faire des brosses à cheveux, voilà. Donc Pylone s'est lancé dans ces brosses à cheveux, on en a vendu des millions, on a bien eu raison, et je pense qu'en plus, on fait plaisir.
Vous vendez 2 millions d'articles par an ?
Absolument.
Ouais. Aujourd'hui.
Ouais. Et ça continue de progresser, parce qu'en fait, on s'implante aussi dans d'autres pays. Pylone est présente dans une vingtaine de pays dans le monde. Donc, on ouvre des jolies boutiques où on accueille les clients du mieux qu'on peut.
Et vous êtes toujours, vous parliez de vos filles, une entreprise 100% familiale. C'est important, cet ancrage français.
Oui, pour nous, c'est très important, parce que je crois qu'aujourd'hui, on est dans une époque quand même qui est compliquée au niveau du business, au niveau du retail. Et une entreprise familiale, c'est la garantie de ne pas être une entreprise financière. Donc finalement, la quête n'est pas une quête d'argent, c'est une quête d'équilibre. Donc c'est une quête d'équilibre social. De rendre nos clients heureux, de rendre nos fournisseurs, nos salariés à peu près heureux, de trouver cet équilibre.
Combien de salariés d'ailleurs ?
En France, on est 300, un peu plus de 300, et dans le monde, on est environ 600.
Une question de Gilles, notre coach.
Oui, de plus en plus de designers disent qu'il faut anticiper l'ère du post-plastique. Je pense que c'est une matière que vous utilisez, c'est un matériau essentiel dans vos productions. Est-ce que vous pensez que le plastique issu du pétrole, ça sera un jour terminé, il faudra inventer une alternative? Et est-ce que vous travaillez là-dessus?
Alors, effectivement, le souci de l'environnement, pour nous, c'est important. Ce qu'on a déjà fait, c'est qu'on a limité, par exemple, beaucoup les emballages en plastique. On a cherché aussi à utiliser d'autres matières, comme le bambou. La fibre de bambou qu'on peut utiliser. On développe plus de produits en porcelaine, c'est de la terre. On fait des efforts aussi au niveau du transport. On transporte certains de nos containers sur bateau, sur la Seine, au lieu de les mettre sur des camions. Donc je crois que le problème du plastique, c'est un problème d'environnement, donc c'est un problème plus général dont il faut se soucier.
Vous avez décidé de travailler avec la Chine. Pourquoi la Chine ? Il n'y avait pas moyen de produire. On a des vallées destinées au plastique ici en France.
Alors,
je sais que voilà, vous y avez songé, mais finalement, c'est en Chine que vous produisez. Et vous avez repris le contrôle de l'usine avec laquelle vous travaillez.
Absolument.
Totalement pour garder justement
Absolument.
Votre produit. C'est un choix. Il y aurait moyen de faire autrement ?
Alors. Bon, Pylone, c'est une histoire de 35 ans. Au début, on a fabriqué nous-mêmes, avec nos petites mains. Hein. Bon, après, on a trouvé quelques sous-traitants en France. Et puis, à un moment donné, on va vers le pays qui est traditionnellement le fabricant pour tous ces petits objets, avec un savoir-faire gigantesque. Donc Pylone, voilà, on a commencé à faire fabriquer des produits en Chine et on s'est aperçu que c'était là qu'il y avait le savoir-faire. Y a tous les composants, il y a la force de travail, il y a le savoir-faire. Il y a des produits qui sont d'ailleurs souvent importés d'Europe ou des États-Unis, qui sont importés en Chine pour participer de la fabrication. C'est-à-dire que c'est une globalisation, mais c'est une globalisation qui est réussie. C'est-à-dire que tout le monde en profite, finalement. Et le consommateur aussi en profite, au bout du compte.
En revanche, vous faites fabriquer ici les bagues, parce qu'il y a des bagues.
Alors, absolument.
À Colombes, hein, c'est ça ?
À Colombes, voilà. Donc on a des jolies bagues. Alors, comme on n'est pas loin de la Saint-Valentin,
je me suis dit,
Pylone quand même se devait de vous amener, mesdames, des petites bagues.
Pour ceux qui nous suivent sur Europe1.fr, voilà.
Voilà.
Les bagues en forme de cœur.
Ce sont des bagues en forme de cœur qu'on a créées spécialement pour la Saint-Valentin et qui sont, bien entendu, disponibles dans les boutiques Pylone, sur le site Pylone, ouais. Évidemment.
La suite Pylone, c'est quoi ?
Alors la suite Pylone, c'est de préserver ses équilibres. Pour nous, je crois que l'objectif aujourd'hui, comme l'entreprise est mature, c'est de trouver un équilibre, d'abord de renouveler les produits pour satisfaire nos clients. Deuxièmement, de trouver un équilibre avec toutes nos équipes, pour les rendre le plus confortable possible dans le travail. Et puis de continuer à développer des produits heureux, colorés, anthropomorphes, zoomorphes, qui sont comme un bouquet de fleurs qu'on peut offrir très facilement, accessible.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de l'histoire de Pylone. C'est
Merci
l'entreprise
Raphaël.
Qui va bien. Merci aujourd'hui.
Il est 13h49.
Europe 1.
Et si chaque pas fait dans une journée vous permettait de faire un don, c'est Walk United et c'est la solution. Sur Europe 1.
La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1 avec la solution du jour tous les jours juste avant 14h.
Et aujourd'hui, la France marche, Raphaël.
Ouais, mettez vos baskets. Si ça se transformait, justement, tous ces pas en dons, c'est le défi de cette toute nouvelle start-up, Elisabeth. Ça s'appelle Walk United. Elle vous permet de faire de l'entraide, de donner à une association sans même s'en apercevoir.
Oui, vous savez peut-être que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, recommande qu'il est bon d'effectuer environ 10 000 pas par jour pour rester en forme. Et le concept de Walk United, cette application française créée dans la région de Rouen, vous permet non seulement de rester en forme, mais d'être généreux. Comment ? Eh bien, en convertissant vos pas gratuitement pour une association caritative de votre choix. Les premières campagnes de solidarité que l'on peut financer avec ces pas concernent pour l'instant les associations Cœur de Forêt, qui proposent de planter un arbre tous les 10 euros collectés, la Ligue contre le cancer afin de financer des cours de sophrologie auprès des patients, ou encore Sport dans la ville, une association qui vient de lancer une campagne d'insertion professionnelle par le sport dans toutes les régions de France.
Bonjour Alexis Trébeau. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Walk United. Marchons de manière unie, hein, c'est ce que ça signifie si on traduit.
C'est ça.
Comment elle a démarré cette aventure ? Racontez-moi.
À la base, en fait, on est trois associés dans l'aventure. Donc moi, Édouard Falipou et Julien Elbaz. Mm-hmm. Donc on avait un de nos associés, donc Julien en l'occurrence, qui était hypochondriaque et qui avait de gros problèmes de dos, enfin dans sa tête. Il avait des problèmes de dos. L'idée, en fait, pour lui, ça a été en une semaine de faire un maximum de spécialistes pour essayer de trouver une solution à ce souci. Du coup, il a fait le tour des spécialistes et il est arrivé un vendredi soir et il nous a dit, voilà, vous n'allez pas me croire ce qu'il m'a dit, il faut que je marche. Il m'a dit, oui. D'accord. Et en fait, nous, on est un groupe d'amis depuis qu'on a 20, 21 ans, on est tous entrepreneurs. Mais on avait à cœur, en fait, d'essayer de mettre notre savoir-faire, entre guillemets, si on peut appeler ça un savoir-faire, mais d'essayer de faire quelque chose de positif au sein de notre société. Et on cherchait une idée. Ça faisait assez longtemps qu'on cherchait une idée. Et en fait, quand il est revenu ce soir-là, on s'est dit, mais elle est là, notre idée. On était à l'époque de Pokémon Go. On voyait tous ces gens marcher pour aller chercher des Pokémon
oui,
dans la rue.
Avec le téléphone à la main.
On s'est dit, mais voilà, elle est là, notre idée. Il faut qu'on rende, en fait, ce geste qu'on effectue tous les jours et qui est bon pour notre santé. Il faut le rendre positif pour la société.
Alors, comment ça fonctionne ? Je crois qu'à partir de 2500 pas, on peut soutenir un projet qui nous tient à cœur, c'est ça ?
C'est exactement ça. En fait, tous les 2500 pas, vous allez pouvoir sélectionner dans la liste des projets disponibles un projet qui vous tient à cœur et y participer. Pour y participer, c'est simple, vous allez sur le projet, vous appuyez sur le bouton soutenir, de là vous êtes redirigé sur Facebook et vous devez en fait partager un article qui met en avant votre effort, qui met en avant l'association, le projet solidaire et votre sponsor. Puisque bien entendu aujourd'hui, si ça ne coûte absolument rien aux marcheurs, ça coûte à une entreprise.
Donc c'est l'entreprise qui finance ?
Absolument.
L'association.
Aujourd'hui, l'entreprise finance le marcheur, en fait, si vous voulez. Mmh. Elle finance un projet et le marcheur va marcher pour ce projet.
Donc elle est pas, c'est pas l'entreprise qui est en contact avec l'association, c'est le marcheur qui choisit l'association et c'est l'entreprise qui reverse ?
Alors en fait, les projets sont constitués à la base, c'est-à-dire que si on a un projet avec Cœur de Forêt, par exemple, si l'utilisateur, on lie une entreprise à une association. Si l'utilisateur décide par exemple de soutenir Cœur de Forêt, eh bien l'entreprise pour ce projet-là qui a été choisi avec Cœur de Forêt, eh bien c'est elle qui paiera les pas du marcheur.
Donc budget com.
Alors, entre guillemets, oui. Mais alors, communication bien spécifique. Moi, c'est des choses que j'aime beaucoup préciser parce que c'est important. Aujourd'hui, il y a deux types de communication. Il y a une communication produit, où on va essayer de mettre des choses en avant pour des promotions, etc. Une communication institutionnelle. Voilà. Donc l'objectif, c'est d'essayer de trouver des entreprises. Et d'ailleurs, c'est très bien que je sois à la radio aujourd'hui pour en parler, puisque
vous êtes en recherche de d'entreprises pour vous soutenir.
Voilà, c'est ça. Alors, on cherche bien entendu des entreprises qui ont la même vision que nous. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est des entreprises qui ont une vision positive et qui veulent faire des choses bonnes pour la société. Au-delà du fait de créer de l'emploi et de faire plein de choses au sein de la société, nous, on pense qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise et dans les entreprises, elles doivent être leaders. Elles doivent montrer l'exemple et créer du positif et nous on est là pour les mettre en avant sur ça.
Le mot de la fin pour Gilles, notre coach.
Est-ce que vous pensez pouvoir rendre la démarche encore plus participative et démocratique en faisant en sorte que les marcheurs, enfin ceux qui téléchargent l'appli et marchent, puissent choisir les causes et plutôt que l'entreprise. Est-ce que les entreprises seraient suffisamment ouvertes pour laisser le citoyen choisir à leur place?
Alors en fait, le citoyen, c'est toujours lui qui choisit. C'est, en fait, nous, on va proposer un certain nombre de projets et c'est toujours le citoyen qui choisit. C'est juste l'entreprise qui finance qui diffère. Mais le citoyen choisit toujours là où il a envie de faire son don. Après, c'est l'entreprise qui le finance qui diffère selon le projet.
Ouais. Ça s'appelle Walk United. Ça a démarré quand?
Alors, ça a démarré le 15 janvier. Je refais juste une petite, je remets juste une petite coude sur les entreprises. On a démarré le 15 janvier. On
était Vous avez combien d'entreprises qui soutiennent vos projets?
Aujourd'hui, on est à 5-6 entreprises. On discute avec beaucoup d'entreprises, mais on avait lancé une première version qui était une version assez basique et qui marche super bien. On est en train de se développer de manière exponentielle. Les gens, on a une vraie communauté qui nous dit c'est génial ce que vous faites. Et nous, on est vraiment à fond. Mais aujourd'hui, on a aussi besoin que les entreprises jouent le jeu. On le sait, elles en ont besoin avec la responsabilité sociale et environnementale et les compensations écologiques. Elles en ont besoin, donc on est là pour ça aussi.
Vous êtes là pour ça et nous, on est là pour parler de ce qui se fait justement dans cette France qui bouge. Merci Gilles Van Der Potten.
Merci.
Je rappelle votre livre, hein, 20 initiatives qui font bouger la France. Bah, c'est, voilà,
c'est vous,
on
c'est
y
nous.
Est, on y est. C'est vous, c'est nous. Exactement. À bientôt sur Europe 1. Nous, on se retrouve
demain.
Elisabeth, nous parlerons des initiatives pour aider les sans-abri.